Bonjour Ginette Colinka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce 27 janvier, le monde se souvient. Il y a 80 ans, le camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau était libéré. 80 ans après ce 27 janvier 1945, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur que la mémoire de cette histoire s'efface ?
Non. Je n'ai pas peur que la mémoire s'efface parce que déjà, elle s'est effacée pour beaucoup de monde. Interroger n'importe quelle personne dans la rue, demandez-lui qu'est-ce que ça vous rappelle le 27 janvier.
C'est oublié.
Exactement. Il y a une catégorie de personnes qui n'oubliera jamais, c'est les personnes juives, les personnes qui ont subi le joug des... C'est même pas les personnes, parce que c'est leur famille peut-être, mais c'est tout. Hein.
Parlons de votre histoire, Ginette Colinka. Vous êtes arrivée à Birkenau avec votre père, votre petit frère et votre neveu. C'était le 16 avril 1944. Quelles images vous reviennent quand vous pensez à cette journée ?
L'image, c'est mon père et mon petit frère qui montent sur le camion. Et sur les camions, c'était la...
C'était la mort.
L'assassinat. C'était non, plus que la mort. L'assassinat.
L'assassinat au bout de ce chemin-là.
Voilà.
Et vous parlez de ce camion parce qu'à votre arrivée, vous arrivez en train dans le camp, vous êtes ensemble, et vous entendez que les plus fatigués peuvent aller jusqu'au camp en camion.
En camion.
Et vous leur dites, vous qui êtes fatigués, papa, Gilbert, allez-y.
Exact. Exact. Mais de toute façon, ils faisaient la descente du train, ils nous obligeaient. Ils ont séparé les hommes des femmes et ils nous mettaient par groupe de cinq. Et par groupe de cinq, on passait devant ces messieurs et au coup d'œil, toi tu rentres, toi tu vas à la mort.
Quand vous arrivez à Birkenau, vous pensez arriver ici pour travailler en fait ?
J'allais
vous,
dans
vous
un
pensez que vous allez travailler à l'usine ou dans un champ, c'est ça ?
J'avais vraiment pas peur. J'allais dans un camp de travail. Et un camp de travail, pour moi, c'était un travail dur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail dur pour une jeune fille qui est vendeuse ou qui était dactylo ? Eh bien, travailler dans les champs ou travailler en usine. Donc, j'avais absolument pas peur.
Et quand est-ce que vous comprenez que ça n'est pas un camp de travail comme un autre ?
Ah ben, ça, tout de suite hein. Tout de suite, on commence à vous bousculer très fort. Et puis quand on rentre dans le... Déjà, quand on marche pour aller jusque dans le camp, moi, pour moi, c'était mon usine. Je voyais de la fumée, des cheminées. C'était mon usine.
Oui.
C'est quand j'étais dans le camp, c'est dans le camp qu'on apprend que l'usine, c'était l'usine de la mort. Mais quand je suis dans le camp... Ce qui est la surprise, c'est de voir tout ce nombre de baraques à perte de vue. Vous avez des baraques, des baraques. Ben, ça devait être une drôle d'entreprise pour employer toutes ces personnes.
Et puis, il y a la violence qui s'abat sur vous et sur les autres femmes et jeunes femmes qui sont là presque tout de suite, dès le début. L'un des premiers ordres qui vous est donné, c'est celui de vous déshabiller.
De se déshabiller. On nous met nus, ça c'est vrai, on va nous raser, mais on ne reçoit pas de coups encore. Hein.
Vous êtes mise nue, on vous est rasée, vous êtes tatouée aussi. Tatouée. Et vous vous retrouvez avec ce numéro matricule voilà. Sur le bras.
Voilà, 78 599, le dire en allemand ça a été très très dur. Et je crois qu'ils n'ont jamais compris mon numéro. Mais je ne me rappelle plus ce qu'il fallait dire. Son numéro quand on à l'appel. Il y a des choses que je me rappelle et d'autres que je ne me rappelle plus.
Ginette Colinka, vous avez raconté qu'en arrivant dans le camp, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de mode d'emploi.
Ah non.
On apprend ou on meurt.
Exact. Quand vous apprenez tout de suite parce que si vous n'avez pas compris, ben, on vous frappe. Là, oui. Là, on commence à frapper.
Et c'est là que vous décidez de vous faire la plus petite possible, de ne jamais vous révolter.
De tout accepter, exact.
C'était votre méthode de survie. Vous avez compris que votre survie pouvait passer par là.
Je ne sais pas si j'ai compris que c'était ma survie. Ce que j'ai compris, c'est que comme ça, je ne me ferais pas tabasser comme je voyais mes pauvres copines qui se faisaient taper au point d'être ou évanouies ou mourantes.
Il y a une femme que vous allez rencontrer, beaucoup de femmes que vous allez rencontrer dans le camp, notamment Simone Veil, qui, elle, disait qu'il fallait être dur pour tenir et pour résister.
Moi, je ne sais pas. Ces termes-là, je ne sais pas si je les emploierais.
Oui.
Moi, je crois que je dirais que c'est la chance. Parce que, vous savez, j'ai vu des femmes costauds. Jamais j'aurais cru qu'elles perdraient leur force. Et puis elles se sont laissées partir. Et j'ai vu au contraire des petites femmes. Oh non, mais elle ne tiendra pas le coup. Ben si, elle est revenue.
De quoi étaient faites vos journées dans le camp?
Ah, ça, c'est des bonnes questions. Oui, parce que souvent, on ne nous pose pas cette question. Eh bien, on se levait le matin, je crois, 4 heures du matin. On nous réveille. Il faut tout de suite être dehors à l'appel. Déjà, c'est très difficile d'être tout de suite, parce qu'on dormait dans des espèces de niches qu'on appelait des koyas. Et par le fait, on ne pouvait pas s'habiller si vous étiez dans la koya. Il fallait donc descendre de la koya. Donc déjà, vous perdez du temps. Et quand on est sorti et qu'on a perdu du temps, eh bien, on reçoit des coups. Et après, ben, c'est l'appel. Et les appels, le matin, c'est assez rapide. S'il manque une ou deux personnes, c'est pas parce qu'elle fait la grasse matinée, elle est morte ou elle est malade. Eh bien, les malades, il faut qu'elles soient debout quand même. Elles n'auront pas le droit d'être assises, d'y coucher. Debout à l'appel avec les autres camarades. Et les mortes, eh bien, les mortes, on les traîne, on les laisse tomber. On n'a pas pitié des mortes.
Et donc, une fois que l'appel est fait, qu'est-ce que vous faites dans la journée? Vous travaillez?
Ça s'appelle un commando. Et quand l'appel est fait, eh bien, les commandos sont formés et vous amènent à l'endroit où vous devez aller.
Qu'est-ce qui était le plus dur au quotidien dans le camp, Ginette Colinca?
Qu'est-ce qui était dur? Mais tout.
Tout.
Tout. Je ne saurais pas dire ce qui était le plus dur. Si, quand je suis arrivée, pour moi, le plus dur, c'était la nudité. Mais ça passe très vite. Mais ce qui est terrible, c'est de voir vos amis qui sont battus et que vous pouvez... Vous savez, j'étais très contente d'être avec personne de ma famille. Je ne sais pas comment ont pu faire les mères, les filles. Elles ne pouvaient pas défendre. Les filles ne pouvaient pas défendre leur mère. Les mères ne pouvaient pas défendre leurs filles. Et comment qu'elles ont pu accepter ça? C'est pour ça que je dis que je crois qu'on perd toute... on n'est plus des êtres humains tout de suite.
Immédiatement, vous a enlevé votre humanité.
Voilà, voilà.
Comment vous avez fait pour tenir, Ginette Colinca?
La chance.
La chance?
Moi, je sais que c'est moi. Alors oui, on me parle de la bravoure, le courage. Mais non, on n'était plus rien. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est plus rien a des sentiments? Non.
Vous considérez que vous avez eu de la chance?
Voilà. À moi, c'est le seul mot que je peux dire, la chance.
Alors, vous allez quitter Birkenau en novembre 1944.
Ça, c'est la chance.
On vous transfère vers le camp de Bergen-Belsen. Et puis, ce n'est que plus tard, en juin 1945, que vous rentrez à Paris, chez vous, que vous allez retrouver vos sœurs et votre mère. Vous vous souvenez de ces retrouvailles, du moment où vous les revoyez pour la première fois?
Non. Non. Je vous ai dit, tout ce qui est sentiment... Je l'ai oublié et je ne me rappelle pas. Est-ce que j'avais encore des sentiments pour être heureuse de les retrouver? Je ne m'en souviens pas et je ne crois pas.
Oui. Est-ce que vous leur racontez ce que vous avez vécu à votre retour?
Non, jamais.
Pourquoi vous ne leur parlez pas?
Mais mon père n'était pas revenu, mon petit frère n'était pas revenu. des oncles, des cousins ne sont pas revenus. Et moi, je vais dire tout ce que j'ai subi.
Et vos sœurs ne vous posent pas de questions ?
Non. Ou peut-être qu'elles m'ont posé des questions, parce que au retour, je me souviens d'une réponse que je faisais, et ça clouait le bec à tout le monde, c'est que si il fallait que ça recommence, si j'avais un enfant, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de subir ce que j'ai subi. Alors, ça voulait tout dire, et ça voulait rien dire, mais voilà.
Parce que pendant 50 ans, vous n'avez rien dit à votre famille, à votre mari, à votre fils. Pourquoi ne rien dire ?
Je ne voulais pas les attrister. C'est tout.
Tout simplement ?
Tout simplement.
Et vous ne voulez pas, vous vouliez pas les embêter avec ça, en quelque sorte ?
C'est ça, exactement. Non, alors, les attrister, et puis s'il fallait que je rabâche à chaque fois à quelqu'un, j'ai été déportée et tout. Non, non. Ça, je me l'étais dit tout de suite. Dès que j'ai appris que la guerre était finie, Ginette, tu raconteras à personne. Et j'aurais voulu enlever mon numéro à ce moment-là, parce que c'était la preuve que j'avais été déportée et que je voulais garder aucune preuve qui me reste effacée de cette période-là de ma mémoire.
Aujourd'hui, vous racontez, vous rencontrez régulièrement des élèves. Au moment où on se rencontre, vous et moi, vous venez de rencontrer pendant 2 heures des lycéens. Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus souvent, ces jeunes ?
Je ne saurais pas dire les questions qu'ils me posent. J'avoue franchement, en tous les cas, ce que j'ai remarqué, jamais on nous parle de l'hygiène dans les camps. Et jamais on nous parle de qu'est-ce que vous mangez. Et ça m'aurait intéressé qu'on me pose cette question, parce que moi-même, j'aurais posé des questions à des survivantes ou de mon groupe. Alors que là, maintenant, il n'y a plus personne.
Il n'y a presque
plus
personne. Mais oui. Qu'est-ce qui vous semble essentiel de transmettre aux nouvelles générations, Ginette ?
Oh, c'est la haine.
Leur apprendre que la haine est dangereuse.
Le sentiment de haine, parce que ce qui est arrivé, c'est simplement parce que un monsieur nommé Hitler haïssait les Juifs. Et du coup, il a entraîné tout son peuple.
Et donc, le message que vous voulez faire passer, c'est attention à la haine.
Attention, la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Dès que vous commencez à dire « j'aime pas cela », c'est un pied dans Auschwitz. On peut accepter, et non seulement on peut, mais on doit accepter tout le monde.
Ginette Colinca, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui vous êtes l'une des dernières survivantes d'Auschwitz, l'une des dernières à pouvoir raconter directement. Est-ce que vous craignez l'après, après vous ?
Bon, ce n'est pas tellement ça qui me tracasse. Hein. Mais bon, je sais que quand on ne sera plus là, ça sera certainement plus pareil. Ceux qui ont des doutes auront toujours les mêmes doutes. Mais malgré tout, il y aura quand même des personnes qui nous auront écoutés et qui pourront dire à ceux qui ne croient pas que ça existait, « Ah si, nous, on a vu des gens qui sont revenus des camps, ils racontent. »
Dans quelques jours, vous aurez 100 ans. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour votre anniversaire, Ginette
Colinca ?
C'est pas
beau de me dire que je suis vieille.
Ah, j'ai pas dit que vous étiez vieille, j'ai dit que vous aviez 100 ans.
J'ai pas 100 ans.
Non, vous avez...
Ce qui fait terrible, c'est d'avoir vécu un siècle.
Ah oui.
C'est ça qui me... Un siècle. J'ai vécu un siècle. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ?
Pas encore.
Et quel siècle ?
N'est-ce pas ?
Alors, qu'est-ce que...
Qu'est-ce que je vous souhaite ?
Je dis pas de vivre. Mon anniversaire, la fête qu'on va faire pour mon anniversaire... Puis après, j'ai pas envie de vivre plus longtemps.
Pas beaucoup plus ?
Non.
Merci de votre sourire et de nous avoir raconté tout ça sans jamais pleurer, en fermant les yeux souvent. Vous ne pleurez plus, Ginette Colinca ?
Vous savez que c'est triste, ça. De ne plus pleurer, de ne plus savoir s'apitoyer, ça veut dire de ne plus avoir de sentiments. Si, rire, m'amuser, d'accord. Mais sinon... m'attitoyer, pleurer sur les gens, non.
Merci Ginette Colinca.
Il n'y a pas de quoi.
Je vous embrasse.
Merci. Vous avez le droit.